On fait les courses le samedi et on cuisine le dimanche, on fait un bon repas.
Alors là, on a acheté les fruits et les légumes.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Et moi, je suis surtout très content que les produits français mettent ces valeurs de l'artisanat en avant.
Laurent Bariotte.
Nous voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver hein, comme tous les samedis de 11h à midi et demi, des produits de saison, des adresses, hein, vous en demandez, elles seront là, et les coups de fourchette de nos invités, vous êtes au bon endroit. On vous emmène prendre le large aujourd'hui en Bretagne, entre des produits locaux patrimoniaux et des chefs inspirés, un vent nouveau souffle sur les tables bretonnes, on vous en parle. Manger équitable pour bien rémunérer nos agriculteurs va-t-il devenir un luxe? On en débat dans un instant. Pour l'heure, voici mes bons vivants du jour. Jamais en carafe, quand on lui demande d'accorder un plat avec une quille, elle fait un strike à tous les coups, c'est Miss Glouglou. Bonjour Ophélie Lehmann.
Bonjour Laurent.
Plus il déguste, plus il est sûr d'une chose. Les sulfites disparaissent avec l'âge. C'est sa façon de boire des vins nature. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Je ne sais pas d'où vous sortez cette théorie, mais bon, je veux bien vous croire. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de soufre dans les très vieux vins. Le soufre se dissout
voilà,
petit à petit dans
ça.
Le vin.
Mais pas à ce point-là, alors.
Bah, il en reste toujours un peu.
Ah, j'étais
quand même,
un peu large,
hein.
Alors.
Ouais,
bon, bah, il ne sera pas si nature que ça.
Je sais que vous aimez beaucoup les vins nature, on reprendra le débat une autre fois. En tout cas, bonjour Laurent, bonjour Ophélie.
Bonjour Olivier.
Eh ben, je suis très content d'être avec vous jusqu'à midi et demi. Sur les coups de midi, un grand chef sera des nôtres. Gérald de Paceda débarque tout droit de Marseille avec ses 3 étoiles et un beau garde-manger dans sa valise. Question rituelle du samedi, quel est votre goût de la semaine? Un livre, un plat, un restaurant? Posez-vous la question à la maison, je vous la pose, Ophélie Lehmann.
J'ai eu un coup de cœur dans un restaurant qui s'appelle Mordu. Alors Mordu, c'est très chic en fait, parce que c'est à Saint-Germain-des-Prés, dans Paris. C'est vraiment collé au marché Saint-Germain. Mais surtout, j'ai été épatée par leur plat, c'était un tartare de veau aux fraises vertes. J'ai bien dit vertes, j'ai pas dit blanches, hein, pas les fraises importées. Les fraises pas mûres,
c'est ça.
Pas sucrées donc. Et ça ressemble un petit peu à la rhubarbe, mais en mieux. Et franchement, moi qui suis pas très fan des accords comme ça, un peu foufou, sucré, salé, ça marchait tellement bien que voilà, c'est mon
ça
coup de cœur.
Ça donne de la fraîcheur
de la
et un petit peu d'acidité.
Exactement,
effectivement.
C'est ça.
Ouais, c'est bien. Olivier, votre goût de la semaine?
Alors moi, c'est une caisse de vin solidaire. Une caisse de vin dont les bénéfices de la vente iront à la Croix-Rouge pour aider les réfugiés ukrainiens. C'est une sélection de 6 grands sommeliers français, dont Pascaline Lepelletier, Xavier Tuzia, qui ont choisi des vins de différentes régions françaises. Il y a un Vouvray de la Loire, un Crozes Hermitage du Rhône, un Riesling alsacien, une Mondeuse de Savoie, etc. Ça vaut 150 € pour les 6 bouteilles, c'est pas hors de prix. Et elle est en vente entre le 7, donc ça a déjà démarré, mais et jusqu'à la fin du mois, sur le site sommelierparticulier.com. Et le frais de port est offert également. Donc en achetant du vin, en se faisant plaisir, on aide aussi les réfugiés ukrainiens. Et je trouve ça plutôt pas mal.
C'est une très belle initiative. Alors moi, pas de goût de la semaine, mais une grande pensée et une grande tristesse pour Antoine Alénaud, le fils de Yannick Alénaud, vous savez, qui était venu ici pour notre première de la saison, nous parler de leur beau projet, Burger Père et Fils. Il est parti à l'âge de 24 ans dimanche par un assassin et un voleur et un assassin de la route qui l'a percuté sur son scooter. C'était dimanche soir. Donc toutes nos pensées à la famille Alénaud et Antoine Alénaud qui avait de beaux projets avec son papa encore pour la rentrée. Donc on pense évidemment à toute la famille. Allez, c'est l'heure d'aller au marché, les amis. Le printemps s'installe sur nos étals. Les fraises et les cerises débarquent. Direction le marché de la place Saint-Louis à Lyon. Jean-Luc Boujon vous a demandé, tiens, vos recettes de printemps. Bah oui, le titille, le printemps.
Ça sent cuit, ça. Là, j'achète des artichauts, là. Je vais les faire cuire à la vapeur et après une sauce vinaigrette bien relevée. Et voilà, c'est tout.
Bonjour. Je vais vous prendre une petite botte. J'ai acheté des navets. Alors les navets, s'ils sont tout petits, eh ben, je les épluche même pas parce qu'ils sont bons comme ça. Des fois, je les mange même un peu crus, les tout petits.
Des épinards et des radis. Les épinards, je vais faire une tourte. Je fais ma pâte et puis je fais avec concentré de tomates, des oignons, des lardons, des saucisses. Et je la recouvre et voilà.
J'ai acheté de la rhubarbe et des kiwis. Je vais faire une tarte à la rhubarbe. Il faut faire un peu cuire avant la rhubarbe pour la faire dégorger. Et après, me mélanger dans une pâte à tarte. Et puis non, classique, un peu de sucre vanillé par-dessus.
Et c'est pas un peu trop acide, il faut rajouter beaucoup de sucre.
Moi j'aime bien quand c'est acide mais pas beaucoup de sucre. Ah oui j'adore.
Mais vous avez raison madame, c'est comme ça qu'on l'aime la rhubarbe avec sa vive acidité. On veut qu'elle titille nos papilles. C'est comme les radis, on veut qu'ils piquent. Arrêtons ce monde pasteurisé, on veut que tout soit doux.
Alors les radis sont plus piquants en fin de saison quand ils ont du soleil. Ils sont un peu moins piquants maintenant. Mais alors, une recette très facile, une botte de radis. D'un côté, les fans, vous en faites un pesto avec des pignons de pin, avec un peu de parmesan, avec de l'huile d'olive. De l'autre côté, vous coupez les radis en quatre, vous les poêlez dans un tout petit peu de beurre et on réunit le tout à la fin. Un peu de pesto dans le fond de l'assiette, les radis poêlés par-dessus. Simple, croquant, efficace.
C'est bien ça. Et n'oublions pas que la rhubarbe est un légume hein, à la base et qu'elle peut se poêler avec un petit peu de beurre, en tronçon par exemple, pour accompagner un magret de canard que vous pourrez faire au barbecue par exemple ce week-end.
Oui, moi je la fais aussi sucrée puisque je l'ai faite avant-hier. J'ai fait une tarte à la rhubarbe maison. Et je mets toujours de la cannelle. Alors, il y a ceux qui détestent et il y a ceux qui adorent. Moi, je fais partie de la team, j'adore la cannelle avec la rhubarbe.
J'aime bien la cannelle, mais je n'ai jamais fait ça. Ça me donne envie.
Vous rajoutez une toute petite cuillerée à café dans votre préparation avec des œufs, du sucre, enfin un truc tout simple et puis de la rhubarbe.
Parce que moi, je fais ma compote au rapadura, vous savez, ce sucre de canne complet, hein, qui a un petit goût de réglisse, donc ça marche bien avec la rhubarbe, mais je vais essayer avec la cannelle. Eh bien voilà, en rhubarbon, les amis, c'est le printemps.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Baisse du pouvoir d'achat, prix des fruits et légumes qui flambent, pénurie d'huile, notre cabas est bien bousculé hein, en ce moment. Peut-on, tiens, aujourd'hui bien manger sans casser la tirelire et respecter les producteurs? C'est la question qu'on se pose à table avec Nicolas Chabanne. Vous savez, c'est le fondateur de C'est qui le patron? Eh bien, il est au studio Coluche aujourd'hui, c'est lui le patron. Bonjour Nicolas Chabanne.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être des nôtres. Alors, une marque créée par les consommateurs, C'est qui le patron? On en parle régulièrement ici. On rappelle un petit peu les bases de cette marque et les fondements?
Oui, c'est une coopérative de consommateurs. On est rassemblés autour d'un objectif premier, peut-être même unique, soutenir les producteurs. C'est parti comme ça pour le lait. On crée des produits ensemble sur Internet, on répond à des questions. Est-ce qu'on est prêt à mettre des centimes pour les aider, pour qu'il y ait du pâturage, limiter l'impact environnemental? Et ça devient des produits créés par nous, les consommateurs, et qui soutiennent les producteurs.
Parce qu'effectivement, le prix du lait aujourd'hui, plafond, plancher, il est de combien pour les producteurs?
Alors aujourd'hui, ça nous a été donc redemandé récemment, puisque nous, on n'a qu'une boussole, c'est ce qu'ils nous demandent pour réussir à avoir des journées où ils vivent de leur métier. Là, c'est 43 centimes minimum par litre. En dessous, c'est impossible de s'en sortir. On vérifie évidemment avec eux, hein, tout ça, mais voilà.
Donc, mais ça, c'est le prix que vous payez, vous, le prix du lait, 43 centimes.
Ça, c'est le prix payé au producteur.
Voilà, mais le chiffre basique pour ceux qui ne sont pas dans votre démarche, il est beaucoup plus bas.
Ah oui, alors il y a du lait qui est évidemment pas cher. Il y a toujours le drame, pardon, mais des promotions, il y a ces volumes de lait qui sont décrochés. Sachez tous que quand vous voyez du lait à 55 centimes, c'est pas le magasin ou c'est pas la marque qui vous offre ces centimes, c'est le producteur au final, parce que la pression ira jusqu'à lui.
C'est ça, parce que pour vous, au-delà de la qualité et du budget, mieux manger, c'est une question éthique aussi. Hein.
D'abord une chose, on n'oubliera jamais dans ce contexte-là tous ceux qui ne peuvent pas rajouter ces fameux centimes, parce que quand vous n'arrivez pas à finir la fin de mois, vous parlez de quelques centimes, c'est pas possible et c'est même un peu indécent. Cette famille, elle est très grande, mais pour ceux qui peuvent, sur le lait, on le rappelle, pour que des producteurs aient le sourire toute l'année, ça coûte 8 centimes de plus par litre à rajouter pour eux. On boit 50 litres, 50 litres fois 8 centimes, ça fait 4 euros par an. Il faut qu'on mesure ça. Quand on peut le faire, on lutte contre ce pouvoir d'achat en berne. Comment? Parce que quand le producteur gagne sa vie, c'est que ce sont les gens aussi en difficulté qui sortent la tête de l'eau, il a le moyen d'aller chez un commerçant local acheter et donc redonner le pouvoir d'achat à quelqu'un qui lui-même, par une chaîne vertueuse, va pouvoir recréer de la valeur. Donc il y a ces deux univers qui avancent ensemble, les prix bas, pour ceux qui en ont terriblement besoin, et la valeur aux bons endroits pour qu'on s'en sorte finalement tous au final.
Oui, avec ce système, vous êtes au milieu en plus, parce qu'il y a les prix bas, comme vous dites, hein, les prix discount, et vous êtes au milieu parce qu'il y a encore des prix plus chers que vous au niveau du lait, par exemple. Ouais. Je pense à une marque comme Viva, je crois, de Candia, qui vend le litre de lait encore plus cher que vous, et sans la bonne rétribution aux producteurs.
Voilà, c'est un peu ça le problème. Mais c'est vrai que ce n'est pas le lait le plus cher. On a l'exemple de la compote de pommes, où un peu comme ça, spontanément, nous les consommateurs, on crée une compote de pommes qui limite le gaspillage, qui aide des producteurs au juste prix, elle est 20 centimes moins chère que les grandes marques. On a découvert ça parce qu'il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de com. C'est une dimension virale qui fait que tout le monde aide la démarche et on ne fait plus de marketing et de communication.
C'est vrai qu'on ne connaît pas en réalité, quand on prend un produit, son prix, on ne connaît pas la manière de le construire, comment on le décortique finalement. Alors on sait qu'il y a de la TVA, on sait qu'il y a du transport, on sait qu'il y a la marge évidemment du distributeur et ensuite la rétribution de l'agriculteur, mais on ne connaît pas toutes ces données. Peut-être que comme on met finalement des tableaux avec les calories ou avec les bienfaits pour notre corps, on pourrait aussi avoir des tableaux de vertu finalement de rétribution des agriculteurs.
C'est une très bonne idée, vous soulignez, alors nous on l'a mis sur le site internet, vous pouvez voir à chaque fois où va chaque centime payé dans le cadre du prix. Vous pouvez voir aussi, à la fin de l'année, c'est important, parce qu'il y a eu un tel succès, quand on est une coopérative, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de dividendes redistribués, tout reste dans le circuit pour aller aider d'autres producteurs. Mais on a voulu que chaque centime que vous amenez tous, là on amène tous de l'argent, on puisse savoir où il va au final, même derrière la démarche. Et vous soulignez quelque chose de simple, on ne peut plus dans les rayons, nous consommateurs, retourner toutes les barquettes étiquettes, on ne croit plus la com, et on trouve intéressant, et on le dit aux marques, au-delà de notre démarche, de laisser les consommateurs que nous sommes aller vérifier auprès des producteurs. Rien n'est plus fort et plus beau qu'un producteur les yeux dans les yeux à qui vous demandez « est-ce que votre vie change ?» quand j'achète ce produit.
C'est ça. Alors, c'est qui le patron ? On connaît un succès avec les litres de lait. Hein. C'était vraiment le fondement de votre collectif. Vous avez essayé de faire la même chose avec des fraises et des salades. Et là, ça a moins bien marché, j'ai l'impression.
Oui, dans le cadre de cette démarche, on n'est pas une marque qui s'obstine pour essayer de se faire une place à côté des autres. Quand on est une marque de consommateurs, on challenge absolument chaque produit. Nos fraises, créées tous ensemble, elles étaient très bonnes, elles étaient tout à fait équitables. Mais comme on a voulu enlever le plastique de ces barquettes un peu chargées en plastique, elles se marquaient en rayon. Il y avait une énorme casse, il y avait donc du gaspillage. Et bien évidemment, on ne s'est pas obstiné, ce n'était pas du tout le but. Les producteurs ont pu être d'ailleurs aidés par une autre démarche. Et on a arrêté le produit. Pareil, la salade en sachet, on nous avait dit que le sachet deviendrait biodégradable. Et ça n'a pas été le cas. Et les consommateurs, en COP, ont fait des votes collectifs, ont dit stop, arrêtons le plastique. Et surtout que le producteur nous avait dit, on le voit dans une vidéo, on en vend si peu que je ne gagne pas ma vie. Il ne faut pas que ce soit autre chose qu'une vérité.
C'est la phrase de Jean-Pierre Coff, arrêtons d'être consommateurs, devenons consommateurs. C'est vraiment ce qui se passe avec cette démarche. Hein.
Ouais, c'est devenir acteur direct. Et là, il y a une zone d'espoir, je fais court, mais on le vit en ce moment. Dans une période comme ça, très compliquée, quand on prend conscience que cet argent, encore une fois, qui est dans nos poches, hein, le monde économique n'est fait que de l'argent qu'on dépense. Si on reste chacun dans notre coin, on représente quelques centaines d'euros. Si on se rassemble, on représente des millions d'euros. Et ça, cette force à travers nos actes d'achat pour changer le monde, c'est une capacité très rapide en se coordonnant à le faire. Voilà. Donc on peut aider les producteurs et aussi changer les choses.
Ophélie sera d'accord avec moi, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire sur le vin, ça aussi, tiens ?
Alors on l'a. Alors, très bel exemple.
Un vin, c'est merveilleux. Parce que quand on voit des bouteilles de Bordeaux à 2 euros dans le rayon, on sait très bien que le vigneron ne gagne pas sa vie.
Alors, c'est un super exemple. Des vignerons du Beaujolais nous ont appelés. C'était tellement triste parce qu'ils étaient en grande difficulté. On a fait un vin, c'est qui le patron à un moment donné. Et c'est eux qui, ayant vu les prix du Beaujolais s'améliorer terriblement, ont dit on ne peut pas faire du marketing sur une histoire comme celle-là. Et là, c'est les producteurs sortis d'affaires qui nous ont dit franchement, ne jouons pas sur cet aspect-là. On est sorti d'affaires. Amenez votre énergie vers d'autres. C'est toujours de belles histoires quand on s'empare un peu de notre bon sens collectif.
Juste un rappel pour les auditeurs qui veulent acheter des produits, c'est qui le patron ? Comment ils font ? Ils vont sur le site internet pour voir où on peut les trouver ?
Alors, en grande surface ?
Oui, on a une chance.
On ne les a pas dans toutes les grandes surfaces. Hein. Moi, je cherche parfois et j'ai parfois un peu de mal.
Vous soulignez un drame incroyable. Là, c'est étonnant aussi. C'est le lait, par exemple, créé tous ensemble. On se fiche des chiffres dans l'initiative, mais c'est pour donner un point de repère. C'est le lait le plus vendu de France en valeur, devant toutes les grandes marques. Les beurres bio, c'est pareil, c'est les beurres bio les plus vendus de France. Pourtant, ils sont dans un magasin sur deux. Donc le succès et le soutien seront encore plus grands. Il suffit d'aller sur le site internet. Il y a une application aussi qui géolocalise où sont les produits. Et vous avez raison, le message qu'on entend le plus souvent, alors qu'il y a plus de 100 millions de produits solidaires vendus par an, créés par les consos, c'est « Mon Dieu, on ne les trouve pas facilement ». Donc c'est toute une zone de progression qu'on va essayer.
Et comment on peut mettre la pression sur les supermarchés en disant « Moi j'en veux ».
Alors, l'application, c'est simple, c'est qui le patron ? C'est un petit génie qui est venu chez nous pendant un mois et qui a dit « Voilà, on va faire une appli, vous verrez, vous ciblez votre magasin, vous appuyez sur « Envoyer un message », il y a une lettre toute écrite qui apparaît, qui dit « Voilà, je suis client ou cliente de votre magasin, j'aimerais trouver ces produits, ils aident les producteurs. D'ailleurs, sachez quand vous les aurez en rayon, je le dirai aux autres. » Et c'est Il y a eu plus de 50 000 lettres envoyées là en quelques mois.
Et moi, ce que je retiens quand même, c'est ce que vous avez dit sur le prix du lait. En augmentant le prix du lait pour que les agriculteurs soient payés à leur juste valeur, pour le consommateur, c'est 4 euros à l'année.
À l'année.
À l'année. Voilà, donc ça mérite d'être cogité quand même ça. Merci Nicolas Chabanne.
Merci Laurent, merci beaucoup.
Et nos amitiés à tous vos producteurs, éleveurs et producteurs de lait qui nous écoutent.
Ceux que vous avez aidés, soutenus, les producteurs de fraises,
oui.
109 familles m'ont demandé de vous amener des phrases.
Ah oui, le label gustatif et solidaire que nous soutenons ici, on vous en parle régulièrement, absolument.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors, avant de mettre les voiles pour la Méditerranée avec le chef marseillais Gérald de Paceda, cap sur la Bretagne, ses embruns, ses paysages bruts et sa cuisine, on va arpenter le littoral et les terres bretonnes avec Emmanuelle Emery, rédactrice en chef adjointe du Figaro. Madame, bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Bonjour.
Madame
Bonjour.
Figaro, mes respects. Merci, merci d'être avec nous.
Mais c'est un plaisir.
Vous venez nous voir à l'occasion d'un très beau hors-série, Madame Figaro Cuisine. Vous parlez du nouvel apéro. Il y a un focus, un grand dossier sur un chef qu'on aime beaucoup, qui est Glenn Viel, qui est un chef breton d'origine. On va en parler. Et vous êtes là pour nous parler aussi du renouveau de la gastronomie bretonne, parce qu'un vent nouveau souffle sur les tables bretonnes avec des chefs inspirés, respectueux de leur patrimoine local et patrimonial, avec des produits locaux fantastiques. On peut bien le dire, hein, ce hors-série Madame Figaro, il est sorti le 9 mai. Alors c'est vrai que la gastronomie bretonne n'a pas toujours eu bonne presse. C'était pas une région pour le tourisme gastronomique pendant longtemps, faut dire la vérité.
Bah, un peu, je dirais, la faute à la crêpe. On associe la cuisine bretonne à la crêpe.
À la galette,
crêpe,
à la crêpe, ouais, c'est ça.
Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas vrai complètement non plus. Ça ne peut pas se limiter à cela. Et je pense que cette mauvaise image a donné envie à la jeune génération bretonne d'aller sur un territoire beaucoup plus vaste et plus gastronomique. Et il y a aussi quelque chose, je pense, de particulier en Bretagne, c'est le rapport à la nature. Parce que ce sont ce qui m'a plu, moi...
La terre et la mer, là, pour le
coup. La terre et la mer. Et c'est ce qui m'a plu dans cette idée de sujet, c'est de montrer à quel point ils sont concernés. Tous les chefs aujourd'hui sont concernés par la nature,
l'environnement, l'écologie, les ressources.
Absolument.
Mais oui, ils ont été aussi confrontés à des problèmes d'algues vertes, notamment avec l'élevage intensif et tout ça.
Oui. Hein,
donc, ils savent de quoi ils parlent. Alors, on va parler des nouveaux chefs bretons. Mais avant, il faudrait quand même rendre hommage à une génération qui a fait beaucoup pour la gastronomie bretonne, Ophélie Neyman.
Oui, alors moi, je voudrais revenir d'abord sur les raisons historiques qui font que... On n'a pas vu la Bretagne comme une terre vraiment agricole. C'était une terre de paysans, mais le blé n'y poussait pas. Et comme le sarrasin y poussait et que c'était moins valorisé que le blé, on s'est dit, c'est pas une terre, ce qui nous paraît dingue aujourd'hui. Et puis, heureusement, cette jeune génération a fait bouger les lignes. Alors, on en a plein. On le voit dans le dossier, mais on a évidemment Rollinger, hein, Olivier Rollinger, et son fils maintenant, Hugo. On a Olivier Bellin, on a d'autres chefs. On a Nolwenn Corr, c'est ça ?
Oui. Bien sûr, Nolwenn Corr, qui est venu à la table du dimanche. Nous faire une très très belle recette bretonne, oui.
Et puis il y a 6 nouveaux étoilés bretons cette année, j'ai vu ça, 6 restaurants avec autant de chefs à leur tête. Je les cite ou vous le faites ?
Non, allez-y.
Alors, Samuel Sellos, c'est la table d'Anstan.
Oui.
On a Guillaume Pape, l'Embrun. On a Ronan Kervarec, la saison. On a Lucas Martedu, le Gavrini. On a Nicolas Le Tyran, ex-Aleno, source à Lorient, c'est une nouvelle table. Et on a Clément Rabhi, avec la tête en l'air.
Alors ça, c'est la nouvelle génération, mais il y avait une autre génération encore
avant. Bien connu de chefs qui ont porté haute les couleurs de la Bretagne. Alors, on l'a dit, Olivier Rollinger aussi, mais puis des chefs qui ont quitté la Bretagne, hein, Christian Lesquer, Bernard Pacot, Alain Passard, figurez-vous, qui est breton d'origine.
Breton, ouais.
Ah, il en est toujours fier. Vous l'avez dit, Glenn Viel également. Donc, c'est vrai qu'ils ont apporté de leur Bretagne un peu avec eux. Et je pense que beaucoup de ces chefs aujourd'hui revendiquent avec fierté ces origines bretonnes dont ils ne parlaient pas forcément avant.
Vous avez raison. Et il y a Patrick Geffroy aussi, je sais qu'il nous écoute, qui est un grand chef breton qui a fait beaucoup pour le terroir local aussi.
Oui.
On va faire un petit inventaire de ce terroir local, parce qu'il y a des merveilles, il y a des pépites en Bretagne, vous en parlez.
Oui, il y a en ce moment la fraise de Plougastel. Qui, d'ailleurs, je rebondis sur l'histoire du sarrasin et de la Bretagne. C'est vrai que les crêpes, en fait, c'est parce que le blé traditionnel ne poussait pas en Bretagne qu'elles sont arrivées parce qu'ils avaient du blé noir, donc le fameux sarrasin, et qui n'a pas de gluten.
Qui n'est pas une céréale, hein, qui est une plante, voilà. Hein, d'ailleurs, au passage. Hein.
On ne pouvait pas faire de pain parce qu'il n'avait pas de gluten. D'où les crêpes, d'où la bouillie, d'où les fards en sac, qui étaient la base de la cuisine familiale bretonne.
Le terroir breton est riche en produits, hein, le coco de Paimpol.
Ah ouais, hein. J'adore le coco de Paimpol. Rien qu'à prononcer, déjà, ça me donne faim. Mais on n'oublie pas les artichauts.
Les choux-fleurs,
bien sûr.
La crème,
le beurre,
le sarrasin, évidemment. Le lait ribot.
Et puis après,
la belle rouge de Janzé.
Ça, c'est magnifique.
Et puis tous les produits de la mer, parce qu'on parle des terres, mais la Bretagne, elle a quand même quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres de côte. Alors, les coquilles Saint-Jacques, c'est terminé, mais le homard, évidemment, et puis toute une collection de poissons absolument incroyable.
Et puisqu'Olivier ne le dit pas, moi, je vais le dire, il y a le cidre et le chouchène.
Et le chouchène. Et côté vin, il se passe des choses en Bretagne aussi?
Absolument.
Oui, il faut savoir que la Bretagne a été historiquement un grand vignoble qui a disparu avec le phylloxéra. Et puis, il faut reconnaître que le climat breton n'est pas très propice à la culture de la vigne.
Je me demande s'il n'y avait pas 20 000 hectares de vignes au XVIIIe siècle.
À une époque, oui, exactement.
De dingue. Mais oui.
Et aujourd'hui, le réchauffement climatique, il incite les Bretons à replanter de la vigne. Je pense qu'il y a quelques centaines d'hectares aujourd'hui. Il y a des projets qui sont encore en cours. Mais il faut savoir que pendant longtemps, la production de vin a été interdite en Bretagne. Et depuis 2016, l'Europe l'autorise à nouveau. Et donc, ça vient.
Et Emmanuel Emery, côté mer, le poisson est plus valorisé aujourd'hui aussi en Bretagne. On le voit dans de nombreuses assiettes et dans de nombreux restaurants.
Absolument. Et la pêche équitable aussi. Tous ces jeunes chefs sont très attachés à la valorisation de la mer en général et qui passe par protéger la pêche.
Pêche petit bateau, pêche artisanale.
Absolument.
Pêche au casier. Hein.
Absolument. Et c'est en Bretagne, au Guilvinec, qu'il y a le premier port français de pêche artisanale. Et vous parliez de la pêche au casier pour les langoustines. Et aussi, il y a tout un travail sur les filets pour éviter le labourage par les chaluts des fonds marins. Donc, ça permet à tous ces chefs d'avoir une pêche locale d'extrêmement bonne qualité.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Cap à l'ouest ce midi à la découverte de la nouvelle cuisine bretonne avec Emmanuelle Emery, rédactrice en chef au Madame Figaro Cuisine, un hors-série spécial qui donne la part belle aux jeunes chefs bretons. On va découvrir le portrait de trois jeunes chefs bretons dans un instant. Racontez-nous ce qu'ils ont de particulier, ces jeunes chefs bretons, aujourd'hui la nouvelle génération, Emmanuel.
Ils sont particulièrement investis dans la préservation du terroir. Ils sont très éco-responsables. Et ils veulent mettre en avant tous les produits à la fois traditionnels et des nouvelles choses qui arrivent en Bretagne, comme les escargots, par exemple.
Ah bon, on va en parler. Tiens. Voilà. Alors, il y a trois chefs qui se détachent. Il y a Alexandra Beauvais à Rennes, il y a Anne Bienvenue qui est une chef nomade, et puis Anthony Avoine qui est le chef étoilé à Trébeurden avec une cuisine gastro-locale, justement, comme vous venez de le dire. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Anthony.
Bonjour à tous, bonjour Laurent.
Avant de me fâcher avec tous les Bretons, j'ai bien prononcé, c'est Trébeurden ?
Trébeurden, exactement.
Ah,
oui.
Tout va bien. Racontez-nous, tiens, décrivez le paysage, qu'est-ce que vous voyez par votre fenêtre ?
Donc là, actuellement, là, on a le ciel un petit peu couvert. On a un temps magnifique depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, c'est un petit peu couvert.
C'est breton, quoi.
Mais voilà, c'est breton. Ça peut changer dans l'heure.
C'est les quatre saisons en une journée, comme au Pays Basque.
Voilà, exactement, oui. Ouais. Donc, à savoir qu'en fait, le manoir, il est implanté sur les hauteurs de Trébeurden. Ça surplombe l'océan. Donc, on est vraiment face à l'océan. On a les presqu'îles, on a des petits îlots. Enfin voilà. On est
oui, c'est la côte de Granit Rose. C'est une région
exactement,
magnifique.
Ouais,
bah
voilà,
oui.
Sur la côte de Granit Rose. Ouais.
On parlait des escargots du coin, tiens, avec Emmanuel Emery à l'instant dans le hors-série du Madame Figaro. Il y a une recette de tartelettes aux escargots du Trégor. Il paraît que vous avez bataillé, hein, Anthony, pour imposer vos escargots à la carte. Racontez-nous.
Oui, bah après voilà, je pense que les escargots, c'est enfin, ça fait partie de notre patrimoine culinaire. Et là, c'est vrai que donc Béatrice, qui est illicicultrice, qui est basée à une vingtaine, trentaine de minutes du manoir, a lancé son exploitation il y a 10 ans, qui a une très belle démarche dans sa façon de faire, dans son éthique. Et c'est vrai qu'il aurait été dommage de ne pas valoriser son travail au travers d'une recette au manoir.
Qu'est-ce qu'ils ont d'exceptionnel, ces escargots, alors ?
C'est vraiment une chair très ferme et à la fois à la cuisson, enfin à la dégustation, c'est très fondant. On a le côté, c'est des gros gris, donc on a quand même une belle mâche sur le produit. Et puis c'est vraiment l'éthique du produit. Enfin voilà, il y a vraiment une belle démarche dans le travail de Béatrice. C'est un élevage bio. Elle a commencé avec une toute petite exploitation. 10 ans après, ça reste à taille humaine. Elle est toute seule à travailler. Mais voilà, il y a énormément de travail. À savoir que ces escargots, en fait, elle les reçoit, ça fait la taille d'une perle de Japon, en fait, et elle va vraiment de ce début, elle accompagne durant la croissance ce produit jusqu'au travail final en chair pré-cuite.
Et côté mer, vous faites aussi une recette avec des langoustines, langoustines, lait ribot et jus végétal, hein, c'est ça ? Racontez-nous cette recette,
oui, voilà.
Parce qu'elle est, elle est dans leur série, là, elle fait envie, ouais.
Oui, voilà, donc pareil, toujours pour valoriser les produits de la Bretagne, langoustine du Guilvinec.
La demoiselle du Guilvinec, c'est elle.
Voilà, la demoiselle du Loch Tiddy.
Un petit peu sucrée.
Oui, elle est douce.
Un léger goût sucré, pareil, avec une juste cuisson de quelques secondes. On a vraiment le côté nacre de la langoustine, vraiment la chair ferme de la langoustine.
Cuisson très courte, vous venez de le dire, c'est vrai que c'est la pleine saison de la langoustine, il faut le dire à nos auditeurs.
Tout à fait, ouais.
C'est pas Noël, le moment des plateaux de fruits de mer où on la voit surcuite, c'est maintenant qu'on la trouve. Et combien de temps, quand vous dites quelques secondes ?
Nous, on la cuit, moi je la cuis vraiment 5 secondes à l'unilatéral, à la poêle, avec une toute petite noix de beurre.
Bah oui, en Bretagne.
Vraiment,
voilà,
exactement. Ouais. Ouais.
Et dites donc, on ne pourrait pas imaginer une rencontre, un mariage entre vos langoustines et les escargots ? J'ai l'impression qu'ils auraient un petit truc à se raconter, les deux.
Il faudrait y travailler, pourquoi pas ?
Il est osé, il est d'humeur osée aujourd'hui,
Olivier. Ouais. Non mais pourquoi pas, je m'interdis rien en cuisine. Après, je pense que c'est une histoire d'équilibre, de testing, tout ça, mais je m'interdis rien. Donc
challenge.
Je crois que ce serait à tester.
Une idée de recette, tiens, Anthony, pour nos auditeurs qu'ils pourraient refaire ce week-end avec des produits bretons, mais qu'on trouverait partout. Alors, avec la langoustine ou avec un poisson, par exemple.
Oui, pourquoi pas réaliser un petit beurre aux algues, par exemple. Les algues, maintenant, ça se trouve beaucoup dans les épiceries bio, les magasins bio, en fraîche, enfin en saumure du moins. Et on peut réaliser un petit beurre d'algues, par exemple, avec ça. On peut partir sur 15 grammes de duce, 15 grammes de laitue de mer, 15 grammes d'aonori.
Ouais,
un petit mélange d'algues. Mixer ça avec un beurre pommade, et puis après, ensuite... Pour commencer à dire son poisson, ou bien parfumer des coquillages, ou bien tout simplement sur une tartine de...
Ah oui, sur des palourdes ou des coques, ça ne doit pas être mal, ça, effectivement. Ça peut remplacer la persillade.
Voilà.
Hein
ouais.
C'est une persillade iodée.
On a vraiment le côté iodé qui ressort. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on boit, tiens, avec ça ? Je vous pose la question, Ophélie Lehmann.
Il faudrait que je le goûte pour pouvoir
c'est
dire.
Ça. Voilà, mais
c'est vrai. Ouais.
Non, mais il y a tellement de bons vins blancs, un peu iodés, un peu marins, un peu salins.
De la région nantaise.
Absolument. On oublie à quel point il y a de grands, grands muscadets. Hein. C'est pas juste le petit muscadet de comptoir. Vous allez sur Clisson, Valette, qui sont des crus du muscadet. Et là, vous avez des élevages à 48 mois sur lit. Et là, c'est grandiose.
Et redécouvrons aussi des poissons plats accessibles comme la barbue. Hein, je pense à ça, par exemple, Anthony, qui est un poisson avec une très belle chair. Je pense aussi à Nolwenn Corr, qui est une chef bretonne qui est venue nous voir il n'y a pas longtemps à la table du dimanche et qui nous a fait une barbue meunière comme ça. J'ai encore le goût en bouche. Hein. On est d'accord.
J'étais pas là.
Vous n'êtes pas là le dimanche, vous êtes là le samedi. Vous êtes d'accord, Anthony, qu'il faut revaloriser ces poissons hein.
Exactement, oui. La barbue, c'est un poisson exceptionnel. Hein. Sa chair ressemble à celle de ce que l'on connaît, le turbo. Enfin voilà, c'est une chair vraiment exceptionnelle.
Et beaucoup moins cher.
On va en parler aussi avec Gérald de Paceda, le chef marseillais, qui nous rejoint dans un instant. Merci Anthony Avoine d'avoir été avec nos téléphones au manoir de Lannekerelec. Le manoir de Lannekerelec, c'est à Trugordin dans les Côtes d'Armor. Bonne journée en Bretagne et bon week-end. Et on vous retrouve dans ce hors-série en kiosque depuis le 9 mai. Le Madame Figaro cuisine avec 100 recettes qui annoncent l'été. Merci Emmanuel Emery.
Merci beaucoup.
D'être venu nous en parler et de l'avoir apporté. Il est tout chaud.
Europe 1. La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
C'est l'heure d'accueillir notre invité. À Marseille, il a grandi entre les fourneaux et les chants d'opéra. Sa maîtrise du piano l'a récompensé de 3 étoiles au guide Michelin. Du turbo à la baudroie, de la sardine à la girelle, il cuisine et célèbre le poisson. Ils souhaitent tous nous mettre au régime, crétois. Eh oui, c'est lui, c'est le chef marseillais Gérald de Paceda. Bonjour Gérald de Paceda.
Bonjour Laurent, comment ça va?
Ça va bien. Olivier Pouls et Ophélie Neyman et moi-même sommes heureux de vous accueillir à cette table, vous le bel ambassadeur de la cuisine marseillaise et du poisson. Vous êtes le chef qui murmure aux ouïes des poissons.
Oh, je suis le chef qui a imaginé que son potager était marin depuis le départ, en regardant la mer qui, bien entendu, était comme une évidence devant le petit Nice. Ça me rappelle, et si j'ai fait ce métier aussi, c'est parce que je chassais que je plongeais et que j'avais une appétence extrême pour les petits poissons que je remontais avec ma fouine de gamin.
Appétence pour les petits poissons et puis pour les belles tables et les beaux endroits. Le petit Nice, c'est votre navire et votre vaisseau amiral à Marseille, oui, sur une corniche magnifique avec vue sur la mer. Le Môle Paceda également, composé de 3 restaurants à la table, oui, la cuisine et le café du Fort Saint-Jean, tout au pied du Mucem. Dites donc, on peut manger Paceda dans plein d'endroits différents de la capitale phocéenne.
Hein. Oui, mais différemment en fait.
Absolument.
Voilà, le Petit Nice, c'est un 3 étoiles qui est axé sur la cuisine territorialiste de ce que peut être la Méditerranée dans son entier et plus précisément Marseille et ses environs. Alors que sur le Môle Paceda, c'est plutôt une cuisine plus reliée à la culture, si je puis dire. Et on essaie, en adéquation avec le Mucem, donc de préparer des menus qui se réfèrent aux expositions de ce dernier.
On le disait, au Petit Nice, vous pratiquez une cuisine 3 étoiles autour du poisson uniquement. Vous avez un point commun, je trouve, avec Alain Passard. C'est au même moment que vous avez décidé de quitter le tissu animal, de quitter la viande pour vous concentrer sur un produit qui vous était cher, le légume pour lui et le poisson pour vous.
Il est vrai, nous avons choisi, je crois, lui et moi, une façon de faire une cuisine du peu. C'est-à-dire une cuisine qui s'exécute à partir de matières premières qui sont olfactivement et gustativement très, très dense, notamment le poisson qui est empli d'iode, certains légumes pour Alain Passard, mes légumes aussi qui sont issus bien entendu de tous les petits producteurs et paysans des alentours. Et nous nous sommes épanchés avant beaucoup d'autres, je crois, sur une façon digeste d'établir la gastronomie à l'heure actuelle.
Alors Alain Passard, lui, a réintroduit la viande. Aujourd'hui, elle fait partie des propositions et des menus,
bien sûr,
mais pas vous.
Non, et je ne le ferai pas pour la bonne et simple raison que je suis en train d'étudier actuellement, si vous voulez, de passer de la matière principale chez moi, qui est le poisson. J'essaie de le faire passer en condiment d'un légume dans les 5 années à venir, pour essayer le plus possible d'essayer de préserver les ressources naturelles qui sont de la Méditerranée.
Et de tout utiliser dans le poisson.
Et de tout utiliser, forcément.
Quel est votre goût de la semaine, Gérald de Paceda?
Alors, le goût de la semaine, figurez-vous que c'est quelque chose que j'ai pêché la semaine dernière, que j'adore, qui est un souvenir d'enfance. Ça s'appelle une arapède.
Alors là, qu'est-ce que c'est?
Alors, une arapède, c'est un peu un petit chapeau chinois qui se colle sur les rochers qu'on ne peut pas enlever.
Ah, exact, voilà. Oui, je vois.
Qui a un peu ce goût, gustativement, ça ressemble un petit peu à l'ormeau en miniature. Donc, c'est un petit peu l'ormeau des pauvres, parce que lorsque l'on est petit enfant ou marseillais, etc., qu'on est sur les rochers, on a plaisir à les enlever comme ça avec un couteau. C'est très compliqué. Et on les mange crus avec le dos du couteau.
On m'a dit que vous aviez un coup de foudre actuellement pour des charcuteries de la mer.
Il est vrai.
Qu'est-ce que c'est? Ah bah tiens, ils arrivent. Julien Amat nous les apporte à l'instant. Racontez-nous ça, vous n'êtes pas venu les mains vides depuis Marseille, ça fait plaisir à voir. Charcuterie de la mer, donc qu'est-ce que c'est?
Ah bah, en fait, si vous voulez, ça fait quelque temps que je pense à maturer du poisson, ça fait quand même pas mal d'années. Et puis, je ne suis pas le seul certainement, mais quoi qu'il en soit, je pense avoir ouvert une certaine voie là-dessus. J'adore, si vous voulez, d'une part la maturation du poisson, le fumage, et ensuite j'essaye petit à petit...
Oui, c'est vrai qu'on est, c'est fumé, oui.
Voilà, de le rendre complètement
comme poisson, une charcuterie. Là.
Notamment là, vous avez par exemple du denti qui est maturé 10 jours. Mmh. Vous avez un autre denti qui est maturé 31 jours, mais fumé à la fois. Vous avez une ventrèche de thon.
Ah oui, elle est là, tiens.
Ok. Qui est là. Le denti qui est maturé 10 jours a été un petit peu laqué d'une extraction d'oignon, un petit peu pincé. Et à côté, vous avez la terrine de foie de Beaudroit.
Alors ici, on aime aussi parler de vin, Gérald de Paceda. Vous le savez, avec Ophélie et Olivier, aujourd'hui, on est gâtés. Et Olivier, vous avez envie de nous parler des vins de bistrot. Petite définition, tiens, du vin de bistrot.
Alors,
déjà,
glou-glou,
vin de soif,
canaille,
copain,
sans prise de tête, copain, accessible. Alors, c'est les termes qui peuvent donner une connotation un peu péjorative, mais moi, que je trouve plutôt flatteuse. Et c'est certainement pas un défaut de ces vins-là. Alors, c'est souvent, évidemment, aussi une question de prix. Les vins de bistrot, oui, sont les vins très accessibles en termes de prix. Mais vraiment, Il n'y a pas, en tout cas dans ma bouche, de côté péjoratif derrière.
Oui, mais
tout
c'est
ça.
Vrai, vous avez raison d'insister là-dessus, parce que leur image n'est pas toujours très bonne.
Ben non, c'est vrai que pour beaucoup, vin de bistrot, c'est un peu vin de comptoir facile, servi dans des verres ballons, bu à la va-vite. Il y a eu pendant très longtemps quand même des cubiténaires planqués sous le comptoir avec des provenances parfois un peu douteuses.
C'est vrai.
La fameuse cuvée du patron, hein, parfois un petit peu brutale.
Tiens, mais tu comme le bien bistrot, villageoise.
Voilà. Mais comme le bistrot est monté en gamme et est en train de devenir ou de redevenir tendance, les vins qui vont avec suivent à peu près le même chemin. Il y a un côté presque un peu chic aujourd'hui de dire c'est un vin de bistrot.
Oui, puis il y a de belles appellations, je trouve. Je pense au Beaujolais, par exemple, qui font un beau travail dans ce sens-là.
Ben voilà, alors ils ont fait leur réputation avec les travers qu'on connaît, mais ensuite ils se sont un petit peu enfermés dans cette dénomination. En fait, il s'agit de vins populaires, hein, souvent d'appellations pas très éloignées des grandes villes. Vous parliez du Beaujolais, ou on pourrait parler de Cros Hermitage, pas très loin de Lyon, mais pour ce qui est de la région parisienne, c'est Sancerre ou Chablis qui ont été à un moment les grands fournisseurs de ces fameux vins de bistrot. Alors c'est vrai qu'on recherche des vins qui soient digestes, faciles, pas très riches, pas très impressionnants. Aujourd'hui, pour de nombreux consommateurs, ça redevient quelque chose qu'on a envie de boire, parce que c'est vrai qu'avec les montées de degrés alcooliques dans un certain nombre de vignobles, le vin dit de bistrot a ce côté plus digeste.
Oui, puis le bistrot est à la mode. J'imagine d'ailleurs que les producteurs de régions prestigieuses veulent y entrer dans la carte des vins des bistrots, non ?
Exactement. Bistrot, bistronomique sont des lieux très tendance, qui bougent beaucoup et qui drainent une nouvelle clientèle. Les grands chefs, on le voit, ouvrent tous, ou en tout cas dans la grande majorité, des bistrots pour accéder notamment ouais. à une clientèle de plus jeunes.
Le 1917,
le 1917 qui est au Petit Nice, est un bistrot de 3 étoiles. En voilà. fait.
Le bistrot du chef.
Exactement, c'est le bistrot du chef où on a plaisir à partager des plats de partage.
Avec des vins qui sont évidemment dédiés. Et on parlera vin encore avec vous tout à l'heure parce que je crois qu'il y a une petite surprise qui nous attend. Mais c'est vrai que des vignobles comme la Champagne, Bordeaux ou la Bourgogne, qui se voulaient être des vins très statufiants de gastronomie, aujourd'hui cherchent à rentrer dans ces bistrots pour aller notamment... toucher les plus jeunes.
Eh bien, je n'ai qu'un mot à dire. Vive les vins de bistrot. En continuant à en parler, tiens, du vin avec Gérald de Passeda qui n'est pas venu les mains vides, je peux vous le dire. Et c'est même lui, dites donc, quelle chance, quel luxe, qui va nous faire le plat du jour dans un instant. Allez, petit indice, il y aura du poisson.
Oui, saucisson de serre et des carottes. Et c'est sympathique, et puis il faut faire travailler les petits paysans.
C'est le printemps, dans l'assiette.
Europe 1. 11h30, la table des bons vivants.
Je connais des gens qui buvaient du jus d'ail le matin.
C'est bon et c'est frais.
Laurent Mariotte.
Il n'y a pas de jus d'ail, mais je peux vous dire qu'on se régale. On est gâtés ce samedi midi avec la venue de Gérald de Passeda, le chef 3 étoiles du Petit Nice à Marseille. Est à la capitale. Il est venu nous voir justement avec de belles charcuteries de la mer et on se régale avec une terrine de Baudroie. De foie de Baudroie, il y a une onctuosité, il y a un beau gras, on le disait, hein, Gérald de Passeda. C'est délicieux.
Vous avez... Du soyeux.
Il y a du soyeux,
oui,
effectivement.
C'est exact. C'est soyeux, ça pas le gras du foie de canard et ça, la foie, l'iode, mais assez transparente et translucide de la Méditerranée.
Alors, vous faites briller les fourneaux du Petit Nice et de d'autres adresses à Marseille, on en a parlé. Et la musique, pour vous, est essentielle et capitale. Vous avez grandi entouré de chants d'opéra. Donc, si je vous fais écouter ça, ça vous ne sera pas étranger.
C'est bon. J'écoute.
Oui.
Bah, la Callas, c'est extraordinaire.
On sautait quand il y a la Callas.
Ah oui.
L'opéra Norma de Bellini, interprété par Maria Callas. Si je vous fais écouter ça, c'est pour parler de vous, de votre famille, parce qu'il y a un amour pour l'opéra qui se transmet de génération en génération chez les Passeda. Racontez-nous.
C'est exact. En fait, ma grand-mère était chanteuse à l'Alcazar. Et donc, mon père a pris un petit peu, si je peux dire, le pas là-dessus. Il a été premier prix du conservatoire, donc ténor. Et il faisait à l'époque, avant d'être cuisinier, lorsque son père est décédé, bien entendu, avant d'être cuisinier, il était donc ténor. Il a fait tous les opéras de l'époque dans les années 50 et 60. Et donc, j'ai toujours été, comment dirais-je, imprégné de cela. Et à la limite, c'était un petit peu gênant lorsque j'étais gamin de voir souvent deux fois mon père poudrer, faire des vocalises le matin.
Parce que votre père était chanteur d'opéra, vous venez de le dire, effectivement. Il a arrêté ce métier-là pour reprendre les cuisines de votre grand-père qui est décédé prématurément, en fait, et qu'il n'était pas parti du tout pour être en cuisine, votre papa. Hein.
Il n'était pas parti du tout, mais il avait quand même eu une prépondérance à bien manger, quoi qu'il en soit.
On a bien vu. Puis
comme beaucoup de ténors, d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est vrai, mais il faut se nourrir. Hein. Ça s'entretient, les cordes vocales. Ouais. Et vous parliez de votre grand-mère. Ce qui est dingue, quand même, c'est que votre grand-mère était la muse de Louis Lumière,
oui,
entre autres aussi.
Absolument, j'ai oublié de le dire, mais vous avez tout à fait raison de le rappeler. Ça a été une des premières mannequins photos, si je puis dire, de Louis Lumière. J'ai toujours les autochromes. J'ai 8 autochromes, je dirais, les vrais, les premiers, quoi, de Louis Lumière photographiant ma grand-mère en habit de scène et d'opéra.
Et le petit Nice, cet endroit magique où vous exercez aujourd'hui, c'est votre grand-père qui l'a acheté. C'était une villa comme ça face au château d'If. On peut dire que c'est un bateau sur la mer, quoi, pratiquement, cet endroit. Hein.
C'est un promontoire sur la mer, un bateau sur la mer, avec une vue sur l'horizon qui est incommensurable, si je puis dire. On a le plaisir de s'y lever dans le sens où l'horizon étant là, les bateaux partent, les bateaux arrivent. C'est extraordinaire. Je crois qu'on a un endroit béni des dieux. J'ai beaucoup, beaucoup de chance et je les remercie. Je remercie mes grands-parents et mes parents d'avoir pu me léguer cet endroit qui est si sublime.
Alors, je ne trahis pas un secret, Gérald Paceda. Vous avez été gravement malade il y a quelques années. Vous en avez parlé. Hein. Vous avez subi une grève du foie.
Deux
grèves du foie, c'est un truc de dingue, absolument. Il y a eu un rejet, il y a eu une maladie nosocomiale. Enfin, bref, donc c'est une histoire incroyable. Il a fallu déléguer à vos équipes. On peut saluer Sébastien Tanteau, qui a été au fourneau, votre chef, pendant plusieurs mois avec toute votre belle équipe.
Il a été, puis maintenant, il est parti vers d'autres cieux, bien sûr. Vers d'autres horizons, si je puis dire. Maintenant, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, qui est complètement complice, qui s'appelle Nicolas Hensinger. Nous avons tout rebâti après la Covid, forcément, parce que ça a été 2 ans très compliqués pour tout le monde, quoi qu'il en soit.
Alors, on parlait de votre grand-mère tout à l'heure, Lucie Paceda. Vous lui avez même décerné un plat qui est devenu un de vos plats signatures, comme on dit, le loup Lucie Paceda. Alors ça, c'est vrai qu'il est incroyable. Déjà, visuellement, il y a une sorte de fumée avec une concassée, une brunoise de légumes. Mmh. Et vous faites marier la truffe il y a de la courgette, c'est ça? Il y a de la courgette, de la tomate.
La courgette, du concombre, des tomates, de la coriandre, du basilic, de la truffe, du fumet de poisson.
Que vous faites un peu infuser cette truffe, parce qu'on dit toujours que la truffe, il faut la mettre au dernier moment, et vous l'avez détournée, la truffe.
En fait, si vous voulez, c'est une... On appelle ça la base Lucie maintenant, si vous voulez, c'est une compotée de tomates à la coriandre et au fumet de poisson qui fait la base de cette sauce-là, qui n'est pas une sauce, qui est plutôt apparentée à une vierge, une sauce vierge.
C'est ça, voilà, exactement, la fameuse sauce vierge de l'huile d'olive, concassée de tomates et des herbes, oui.
Et beaucoup d'herbes en dernière minute. Et cette sauce-là, avant de pouvoir la faire au piano, il faut des semaines et des semaines d'apprentissage gustatif pour la trouver.
C'est l'heure du plat du jour à la table des bons vivants. Et au Sud Coluche, on est gâtés, je vous le disais. Et c'est un plat signé Gérald Paceda que vous, chers auditeurs, vous pourrez refaire à la maison ce week-end. De jolies boulettes de poisson panées et qui ne sont pas frites dans de l'huile, mais qui sont frites au four. Racontez-nous ces boulettes de poisson, Gérald Paceda.
C'est un poisson pauvre que l'on prend en général, c'est du muge. Okay, vous pouvez le faire aussi avec du cabillaud, par exemple, etc. C'est taillé comme...
C'est haché grossièrement.
C'est haché grossièrement, voilà, avec quelques herbes à l'intérieur, un petit peu de mie de pain. Et puis ceci est formé comme une petite boulette. Et à côté, je l'accompagne d'une légère sauce de soupe de poisson, de pois chiches, de pommes de terre.
Mmh. On voyage un peu quand même, il y a des épices.
Oui, un petit peu, oui. Mmh. Il y a le ras el hanout dedans.
Ras el hanout.
C'est ça qui fait un petit peu la différence. Il ne faut pas oublier que Marseille est un port d'Orient.
Bien sûr.
Qui accepte et qui se tourne vers l'Orient.
Qui est ouvert.
Elles sont moelleuses parce que le danger de la boulette de poisson, c'est qu'elle soit sèche.
Exactement.
Comment vous faites pour qu'elle reste moelleuse comme ça?
C'est juste une question de température.
Du four. Combien?
Il ne faut pas les mettre à plus de 120 degrés.
Ah oui. Voilà.
Moi, j'ai une petite question sur les poissons, parce que vous avez une collection absolument incroyable, un savoir encyclopédique de tous ces produits de la mer. Pourquoi, quand on va chez un poissonnier, il y a juste 10 poissons?
Je pense que c'est dû à la pêche raisonnée, quoi qu'il en soit, parce que chez les poissonniers, que ce soit ici ou ailleurs, les poissons viennent en général de Bretagne, voire d'Afrique. Pour ma part, j'ai une chance extraordinaire d'avoir mon potager marin qui est devant mes yeux, où on va pêcher dans les profondeurs, dans les abysses. Je travaille avec des petits producteurs qui travaillent et qui ne pêchent qu'à la palangre, et mon poisson ne touche jamais la glace. Cependant, les poissonniers n'ont pas cette chance-là. Quoi qu'il en soit, il y a déjà le transport, et lorsque l'on transporte du poisson, il est déjà sur glace. À partir de ce moment-là, vous avez déjà du poisson qui n'est pas aussi qualitatif que moi, j'ai la chance de pouvoir obtenir en cultivant un petit peu tout ce patrimoine qui est culturel à la fois et amical avec tous ces pêcheurs.
Bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que je l'ai vu de mes yeux vus chez vous. Hein, le pêcheur, il frappe à la fenêtre de la cuisine hein, pour dire « ça y est, voilà ce que j'ai comme poisson voilà. ».
Soit il frappe à la fenêtre et il vient en scooter ou à pied, soit il vient à quai devant le petit
c'est
Nice
ça, c'est un truc de
avec
dingue.
La barque de pêche.
Comme les cueilleurs de champignons dans certaines régions.
Absolument.
Et ils sont tellement frais vos poissons. Ouais. Alors ça, c'est vrai que ça m'avait marqué parce que j'étais venu vous voir il y a très longtemps pour faire un reportage. Et vous m'avez montré tout de suite une armoire à maturer les poissons. Oui, c'est-à-dire que vous travaillez le poisson comme une viande et vous allez faire maturer, vous allez affiner certains poissons qu'il ne faut pas manger trop frais.
C'est ça, parce que lorsque vous avez un poisson qui sort de l'eau et qui est durci, qui est dur comme une barre de fer réellement, il faut pouvoir détendre ses chairs. Alors, vous avez plusieurs solutions et à la fois, les deux sont bonnes. Un, c'est la maturation. Et ce qui est très, très bien, c'est maturation et ikejimi en même temps.
Cette fameuse technique japonaise qui permet de...
Qui détend les chairs.
Qui détend, pas de stress.
Qui ne stresse pas le poisson. Et en plus de ça, j'ai un vivier d'eau de mer, forcément, où je peux me permettre de garder certains poissons et crustacés lorsque les temps sont durs, si je puis dire.
C'est ça.
Voilà.
C'est important de bien manger, mais c'est important de bien boire. Et vous vous êtes lancé aussi dans le vin. Ah, racontez-nous ce qu'on boit là aujourd'hui, voilà. Gérald de Passeda.
En fait, c'est le domaine que ma femme a repris, qui est en Bandol, qui s'appelle Château Salette. Et là, on a sorti une cuvée, qui est, vous voyez, c'est la première bouteille. L'étiquette a été faite par Space Invader, qui est un artiste ami et qui a eu la charmante initiative de pouvoir nous faire nos étiquettes en rosé. En blanc pour le printemps.
Ouais, mais derrière l'étiquette, il y a un truc incroyable. Il y a une palette aromatique inouïe, Ophélie Neyman.
Bah oui, il ne faut pas oublier qu'on est à Bandol. Hein. Bandol, ce n'est pas les rosés de Provence classiques. Hein. C'est quand même Grenache, Mourvèdre, en tête, Saint-Saul. Et puis, c'est un rosé de saignée, ce qu'on appelle un rosé de saignée. C'est-à-dire qu'il y a une macération en fait, des peaux, ce qui va donner beaucoup plus de structure. On le sent. Il y a une vraie matière sur la langue. Il y a de la vraie longueur. Et quand on a comme ça un poisson avec des épices, mais c'est génial parce que ça permet de l'enrober, ça permet de l'accompagner et ça ne s'écrase pas face au plat. Ça peut se mesurer.
Et j'ajouterais aussi une chose, c'est un rosé de garde.
Absolument.
Ce qu'il ne
les
faut
bandoles,
pas oublier,
on les garde 2, 3, 5 ans, exactement. 10 ans parfois.
Et on pense chaque fois que le rosé est un vin d'été. Mais ça peut le faire,
quand
bien
ils sont bien faits, il se garde.
Quand il est bien fait,
et
ça se garde.
Il l'est dans la majorité, parce que malheureusement, la Provence est aujourd'hui à grande majorité de rosés sans envergure. Enfin,
c'est
un temps à boire du rosé en plus.
Là, nous avons choisi de faire un vin.
Voilà, et on vous mettra les références sur europe1.fr.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous. Bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire. Gérald de Passeda est des nôtres ce samedi midi. Tiens, chose promise, chose due, Gérald de Passeda, pour nos auditeurs qui sont en demande. Là, ils vont aller au marché ou ils en reviennent. Ils vont peut-être encore y aller cet après-midi ou demain matin. Des poissons de saison abondants et, dans nos océans et abordables au porte-monnaie. Qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Abordable au porte-monnaie, le poisson a un certain prix et je pense qu'il ne faut pas le dénigrer quoi qu'il en soit parce que le travail de la pêche est très, très compliqué et très difficile. Mais actuellement, vous avez énormément de rougets, c'est la pleine saison, et de la dorade aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire actuellement. La dorade, vous pouvez très bien la mettre au four facilement. Ça peut être une belle pièce pour 3-4 personnes. Ça peut être fait sur un lit de légumes, notamment... toujours pareil, pommes de terre, tomates, citrons.
Fenouil avec
la dorade, huile d'olive. Enfin, des plats de tradition qui sont relativement faciles à faire. Vous mettez au four, vous attendez selon le poids que votre bête peut faire. C'est entre 800, 1 kg ou 1,5 kg. Ça dure entre 20 et 40 minutes à peu près.
On met le pouce du côté de l'arête et quand on sent que ça se détache un peu, on dit que c'est pas mal. Là.
C'est pas mal. Ou alors, ce qui est encore mieux, c'est de le sonder avec un couteau et de porter votre couteau à votre lèvre. Et lorsque le couteau est à la même température que la lèvre, vous êtes sûr que c'est cuit.
Mais là, vous avez dit une chose essentielle, je trouve, parce que beaucoup d'auditeurs, je le sais, n'osent pas acheter du poisson parce qu'ils ne savent pas le cuisiner. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que vous venez de dire ? On achète des pièces entières, on achète des poissons entiers et on les met au four.
Et on ne fait pas lever les filets.
Mais non !
Non, ça peut servir, bien entendu, forcément. Mais un poisson entier, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Ou alors un poisson en croûte de sel. Bon, là, il y a un petit peu de travail, si je puis dire. Mais lorsque vous mettez un poisson, vous le faites écailler par votre poissonnier, vidé, etc. Vous n'avez plus qu'à l'assaisonner à votre convenance, soit avec du thym, du romarin, des oignons rouges, c'est très très bon, ça amène quelque chose de superbe. Et puis vous pouvez déglacer à la fin de la cuisson avec un trait de vin blanc et un petit peu de fumée de poisson si vous en avez, voire du jus de citron.
Moi, je tiens à dire quand même qu'on vit une époque formidable. Parce qu'à une époque, les poissons crus, ça ne se faisait pas du tout en France. Hein, ce n'était pas du tout la culture. Et maintenant qu'on a pris l'habitude de manger des poissons crus, on sait très bien qu'on peut faire des sous-cuissons. Ou en tout cas, si on ne connaît pas bien la cuisson de son poisson, on peut se dire si c'est un peu juste, c'est pas grave. Et vraiment, il faut se décomplexer avec la cuisson du poisson. Comme vous disiez, on le met sur une plaque. Et si c'est pas assez cuit, mais c'est pas grave. On peut le laisser reposer et puis ça va finir
de
cuire tranquillement.
L'inertie de la chaleur, absolument.
Et ça me fait rebondir sur quelque chose, à savoir, on peut, actuellement, le thon arrive aussi. On peut très bien faire un thon, un pavé de thon que vous commandez chez votre poissonnier. Vous le laissez dans un frigo bien emballé, comme ça, dans un papier bouché, c'est-à-dire un papier siliconé.
Oui.
Vous le laissez 8 jours comme ça, qu'il prenne la température. Et ensuite, vous faites un petit carpaccio de thon. Magnifique.
Ah, oula, il va avoir du goût, là.
Oui. Vous voyez, capre, persil frisé. J'adore ça avec le poisson.
Voilà. C'est bien, ça, le persil frisé. Vous avez raison, parce qu'il est, il était très vintage. J'ai un peu ringard. Oui. On le mettait que dans les narines des cochons, dans les charcuteries.
Très, très bon.
Et il est bien sur le thon aussi, et le persil frisé. Mais bien entendu.
Réhabilitons le persil frisé.
Voilà, ma poissonnière ne me donne que du persil frisé.
Parce que le cerfeuil, ça a été galvaudé aussi. Mais pourtant, une salade de cerfeuil, il n'y a rien de meilleur.
Et un petit goût anisé presque dans le cerfeuil aussi. Avec le poisson, ça marche bien. Et puis, c'est la saison aussi des maquereaux, des sardines.
Bien sûr, des poissons bleus, forcément, notamment le thon. La sardine, bon, évidemment, vous pouvez la faire griller sur un barbecue, c'est très facile. Mais vous pouvez aussi la conserver à l'huile chez vous pour des périodes un petit peu plus mauvaises. Et ça, c'est pas mal.
Ophélie, tiens, vous voulez profiter de la venue de Gérald de Paceda pour célébrer Marseille, pour féliciter Marseille, mais côté vigne.
Hein ? Eh oui, je voulais rendre hommage d'abord à Cassis, qui a tout compris. Cassis, c'est ce vignoble qui jouxte Marseille à l'est et qui, historiquement, produit de grands vins blancs, des vins blancs de gastronomie. Et aujourd'hui encore, il y a une douzaine de domaines qui occupent l'appellation et qui produit à 80% du vin blanc. Alors, ils sont surtout faits avec de la marsanne et de la clairette. Hein, c'est des arômes de bergamote, d'acacia, de miel en vieillissant, mais aussi des saveurs iodées. Et ça, c'est un vrai tour de force quand on peut allier l'opulence, l'ampleur sur la langue, avec une sensation de brise maritime en fin de bouche qui rafraîchit tout ça.
Et puis c'est vrai qu'Assis se figure d'exception parce que dans les vins de Provence, cette couleur est anecdotique, c'est 4% seulement de la production viticole.
Eh oui, et qu'est-ce que c'est dommage parce que les blancs de Provence c'est quand même très beau. Alors c'est loin des gros rendements qui parfois galvaudent un peu les rosés. Pour moi c'est vraiment des pépites parce qu'on va retrouver une pâte très particulière sur les blancs de Provence. C'est cette touche de fenouil et d'anis qu'on a, et ça c'est le cépage Rolle souvent qui apporte, ou on appelle aussi le Vermentino, qui apporte cette note. Et puis surtout, c'est cette élégance avec l'amertume de fin de bouche qui va donner beaucoup de longueur. Et ça, avec un poisson, c'est top.
Ouais, c'est top. Et il faut rajouter aussi que l'iode répandue par le Mistral est très importante dans la vinification aussi.
Absolument.
Alors si c'est si beau, pourquoi on n'en produit pas davantage? Pardon, je viens de reprendre une boulette de poisson.
Mais vous posez une bonne question, même la bouche pleine. Parce qu'il y a un défi. Alors d'abord, ça ne produit pas énormément. On sent quand même qu'il y a une demande de la part du public à faire plus de blanc. Mais il va falloir faire attention, choisir des cépages pas trop riches, pas trop lourds en alcool, qui gardent de l'acidité, éviter les boisages trop marqués et puis garder des terroirs frais.
Et en un mot, une initiative qui vous a marqué, Ophélie Neyman.
Oui, et c'est pour ça qu'on boit aujourd'hui un blanc du Luberon, parce que le Luberon, on est entre Provence et Rhône, il y a eu une vraie volonté du collectif de l'appellation de dire, nous, on va faire des grands blancs, quitte à en faire des grands crus. On va faire ça en altitude, à 400 mètres d'altitude. Il y a une vraie réflexion claire, assumée. Et ça, c'est la Bastide du Clos. C'est Sylvain Moret, c'est le président de l'appellation. Et c'est la cuvée Baraban, Grenache Blanc, Vermentino, Clairette. Ça coûte 14€. C'est vif, c'est salin, ça montre son calcaire, c'est bio, bref. C'est tout
ben
bon.
On aime.
Et ben non, c'est tout bon.
On achète
Olivier,
14€.
J'ai vidé le verre.
On achète à 14€. Merci Ophélie Neyman. Et je rappelle qu'on vous lit dans Le Monde, bien entendu. Cher Gérald de Paceda, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Ça va chauffer, il n'y aura pas que de la dorade. Quel est le goût de votre enfance?
Le pistou.
Ah, bah tiens.
Ah oui, ça c'est quelque chose que je tiens de mes ancêtres italiens.
Votre
réellement.
Plus beau repas, Gérald de Paceda?
Chez Alain Chapelle, lorsque j'avais 12 ans, et grâce à ce monsieur, et ce que j'ai mangé à cette époque-là, c'était une nage au Marsannais, je crois, d'un crustacé avec des févettes, etc., etc., et des tout petits oignons grelots. C'est grâce à ce monsieur, grâce à ce déjeuner que j'ai fait avec mes parents, que j'ai réellement eu la révélation pour devenir cuisinier.
Votre pire repas?
L'hôpital.
Ah, alors on en parle régulièrement. Heureusement qu'il y avait les copains qui vous apportaient des plats canailles.
Il y avait Gilles Goujon qui était à mon chevet pour me donner des bons petits plats. Et heureusement, merci Gilles, je te salue.
À Fonjoncouze, qui sont les invités de votre dîner idéal, Gérald de Paceda?
Alors, j'en ai trois qui me paraissent bien. J'ai Al Pacino parce que j'adore cet acteur.
Ah, vous avez un petit côté Al Pacino en plus. Ah, vous avez un petit côté comme ça ténébreux aussi. Hein. Non, mais c'est vrai, vous avez un petit côté. Gérald Paceda, faut pas trop.
On n'irait pas vous chercher des
ennuis.
Faut
pas trop le chauffer, ouais. Tu vois, on se dit ça quand on le croise.
Mais je suis très sympa.
Mais la preuve, si vous êtes là.
Après, j'aurais pensé à Jean-Michel Basquiat, parce que je l'ai connu à New York à l'époque. Mais je ne savais pas que ça allait devenir un grand artiste.
Ah oui, vous avez connu Basquiat à New York. Ouais.
Sinon, vous auriez acheté quelques toiles.
Je pense qu'il me les aurait donnés.
Ah ouais,
non, mais réellement.
Non, parce mais copain à ce point-là.
On était vraiment dans la night, si je puis dire. C'était pas mal. Et puis pour finir, une écrivaine que j'adore, qui est Marguerite Yourcenar, en fait, avec laquelle j'ai eu pas mal de révélations littéraires.
Votre adresse secrète, Gérald de Paceda?
Oh, je dirais que ça serait c'est un petit peu surfait maintenant, mais c'est quand même un cabanon dans les Calanques, réellement, quoi. Avec justement soit un barbecue, soit quelque chose de très simple.
L'essentiel.
L'essentiel, ou justement des petites sardines. Mais par contre, pour les cuire sur le barbecue, mettez-les sur un papier sulfurisé pour ne pas les cramer réellement.
Mais quoi. Le papier brûle ?
Non, pas du tout.
Non, il y en a qui sont inifugés maintenant, des papiers de cuisson. Ouais. Voilà. Pareil sur la plancha, c'est vrai que c'est pour que les poissons n'attachent
exactement.
Pas. Le mot de la fin, FIM, Gérald de Paceda.
Mangez mieux. Et manger mieux, je pense que c'est nécessaire à l'heure actuelle.
Bah, c'est ce qu'on a fait avec vous aujourd'hui, vous nous avez régalé.
Merci.
Merci d'être venu à la capitale, Gérald Paceda. Je voulais vraiment qu'on vous découvre parce que vous faites partie de nos plus grands chefs. Et on ne vous connaît pas bien en fait. Donc voilà, je voulais qu'on découvre qui était Gérald de Paceda. Et en plus du poisson, il aime l'opéra. C'est entre autres choses des petits détails.
Mais
comme
pas
ça.
Que.
Mais pas que. Mais non,
en tout cas, je vous remercie, c'était super agréable. Merci.
Et vous réécouterez l'émission en podcast, bien entendu. Merci à ma fine
merci
équipe
pour vos boulettes.
De m'avoir aidé à préparer cette émission. Boulettes magnifiques.
J'ai terminé mes deux assiettes.
Merci Gérald de Paceda. On se retrouve demain à la table du dimanche avec une rencontre un petit peu improbable. J'ai invité Jérémy Ferrari et Catherine Ney à venir déjeuner avec nous autour d'un plat italien. Et on va voir ce qu'il se
raconte. Ça doit y aller en termes d'anecdotes.
Eh bien, il y a de l'anecdote et il y a du politique, je pense aussi. Allez, bon samedi sur Europe 1 et merci d'être fidèle à la table des bons vivants.